Je m'invite d'abord à mettre mon micro en marche et je nous invite à lire ensemble dans un texte de l'Évangile pour notre culte de rentrée. Nous avons médité plusieurs textes pendant ce mois d'août dans l'Évangile selon Marc en particulier et je vous invite à lire en Marc chapitre 10 les versets 32 à 45. Marc 10 verset 32 à 45. Jésus et ses disciples étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus marchait devant ses disciples. Les disciples étaient angoissés, et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à lui dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous ? » Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. » Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jusqu'ici, notre lecture. Quelles ambitions habitent nos cœurs en ce temps de rentrée ? Quelles attentes, quelles aspirations nous animent ce matin ? J'ai choisi pour notre culte de rentrée de poursuivre le fil conducteur que nous avons suivi au cours du mois d'août, discerner ce que signifie vivre en disciple de Jésus, et principalement à partir de l'Évangile selon Marc. Et nous voilà devant un texte qui nous pose la question de l'ambition. 2 disciples, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus avec une demande claire et précise. Ils veulent être assis l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus dans sa gloire. Pas dégonflés ces deux-là. Mais voilà en tout cas des gens qui en veulent et qui savent ce qu'ils veulent. La rentrée est l'un de ces moments où nous pensons un peu plus à nos orientations. Quelles ambitions nous habitent en ce temps de rentrée ? Quelles attentes, quelles aspirations animent notre cœur ? J'ai employé le mot d'ambition. Il faut reconnaître qu'il n'a pas forcément bonne presse. L'un des visages de l'ambition est le désir ardent de gloire, d'honneur, de réussite sociale. L'ambition est souvent au service de l'amour propre, de l'amour de soi. Et les ambitieux sont prêts à tout pour arriver à leur fin, y compris à écraser les autres. On parle d'une personne dévorée d'ambition, et cela dit bien combien l'ambition peut devenir quelque chose qui nous saisit, une force à laquelle on ne résiste plus lorsqu'elle s'installe. Certains y pensent chaque matin, en se rasant. Pour d'autres, c'est une sorte de mécanique froide qui détermine tous les choix, toutes les relations. Le désir de briller, de se faire une place, ne concerne d'ailleurs pas que les autres, ceux qui ne connaissent pas Jésus ou le Seigneur ou les valeurs de l'Évangile. On est étonné de voir dans le groupe des disciples de Jésus le nombre de fois où ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand, qui avait droit aux premières places, ou peut-être aussi qui devait assumer les tâches jugées moins nobles et moins valorisantes. L'ambition donc, pas très bonne presse, pas forcément bonne presse. Mais il y a une autre forme d'ambition, plus positive. C'est l'ambition qui exprime en quelque sorte le vif désir de réussir quelque chose, d'aboutir à quelque chose. Et avoir de l'ambition dans ce sens, c'est avoir des objectifs. Ne pas se contenter du point où on en est. C'est voir plus loin, c'est voir plus haut, c'est vouloir donner toute sa mesure. C'est aussi s'orienter vers un but, ne pas laisser les choses décider pour nous. Il y a une belle force de mobilisation, de volonté dans cette ambition-là. Alors, peut-être mieux vaudrait-il parler d'aspiration ou d'attente pour dire ce désir positif. Mais il faut reconnaître qu'avec le mot d'attente ou d'aspiration, on est un petit cran en dessous quand même. On peut aspirer à bien des choses, avoir bien des attentes sans vraiment se mobiliser. L'ambition, elle, le vif désir de réussir quelque chose, ça tire. Ça mobilise. Et c'est pourquoi il vaut la peine de garder le mot dans sa visée positive. Avoir une saine ambition, voilà quelque chose de noble et de bon. Et on ne peut pas passer à côté du fait que dans notre texte, il est question d'ambition en lien avec la marche avec Jésus. Et c'est là que ce texte nous rejoint en ce dimanche de rentrée. Nous voilà rejoints, mais on part quand même d'une vision plutôt négative de l'ambition qui sera réorientée positivement vers Jésus. Jésus, nous dit Marc, est résolument en route vers Jérusalem. Les disciples ont reconnu en lui le Messie, celui qui était attendu de la part de Dieu, et Jésus a confirmé qu'il était bien le Messie. Mais Jésus a ajouté des propos étranges en parlant de souffrance, de mise à mort, et de résurrection. Impossible à concevoir pour les disciples qui zappent complètement ce propos de Jésus. Et Jésus doit reprendre la même annonce une deuxième, puis une troisième fois. Mais là encore, ses propos glissent sur ses disciples comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ils s'attendent, eux, à une démonstration de force de Jésus. À la rigueur, peut-être un moment difficile, comme dans tout combat, mais rapidement, il faut qu'il y ait une intervention puissante, un retournement de la situation et un règne glorieux du Messie à Jérusalem. Ils sont en route vers Jérusalem, on va vers ça. Il y a des postes à pourvoir, mais les places seront chères. Alors Jacques et Jean lancent en famille une opération de lobbying sur Jésus. Maman s'en mêle, c'est l'évangile de Matthieu qui nous le souligne. Maman Zébédée s'en mêle avec ardeur, mais pour Jésus, c'est Jacques et Jean qui sont adultes et responsables, c'est à eux qu'il parle, c'est à eux qu'il répond. Leurs premiers mots à Jésus font pourtant plutôt sourire pour des adultes. Ils demandent à Jésus un chèque en blanc. « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Ça me rappelle des choses que j'entends parfois. « Papy, « dis oui !» Oui à quoi ? On ne le sait pas. Mais l'enfant voudrait la garantie du oui avant de soumettre sa demande. Alors Jacques et Jean savent certainement que Jésus leur demandera de préciser leur demande. N'empêche, ils annoncent la couleur. « Nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Le centre est bien posé, c'est eux. Et cela éclatera plus encore et sans gêne, ni état d'âme, au moment de préciser la demande. Nous voulons être l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Pas dégonflé du tout, ni par rapport à Jésus, ni par rapport à leurs collègues. Tout cela est absolument autocentré, en toute bonne conscience. L'ambition que l'on entretient autour de soi-même fait complètement oublier les autres, les fait pratiquement disparaître de notre écran radar. Alors, est-ce que Jacques et Jean sont des enfants gâtés qui ne veulent que recevoir et qui ne savent pas donner? Il faut leur rendre justice. Ils ont sacrifié d'autres ambitions pour suivre Jésus. Ils ont quitté l'entreprise de pêche de Papa Zébédé qui avait probablement un bel avenir. Ils se sont mis en chemin avec Jésus à un moment où Jésus n'était pas encore populaire. Ils ont obéi, ils ont tout laissé lorsque Jésus le leur a demandé. Et toute la famille en a assumé le prix. Maman Zébédée n'a plus ses garçons auprès d'elle. Papa Zébédée manque de 2 fils pour son entreprise. Ses fils peut-être sur lesquels il compterait pour sa retraite, pour ses vieux jours. Et pour les disciples eux-mêmes, ce n'est pas rien de s'engager à la suite de Jésus. Il est possible que Jacques et Jean ont considéré que ce qu'ils avaient laissé pour suivre Jésus leur donnait droit à certains privilèges en compensation. Ce n'est pas rien de s'engager à la suite de Jésus, comme l'ont fait Jacques et Jean. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas rien de le faire. Cela implique des choix de vie, des choix de priorité. On va renoncer à certaines choses, comme ils l'ont fait. On renonce à une vie menée au simple gré de nos envies ou de nos égoïsmes. On renonce aussi à certaines manières d'être ou de faire qui ne correspondent pas à l'état d'esprit du Christ. Renoncer au mensonge, par exemple, nous dit l'apôtre Paul. Ou encore, renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, aux calomnies, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Colossiens 3, verset 8. Suivre le Christ, c'est aussi en toute situation chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, verset 35. Chercher à manifester en toute chose notre amour pour le Seigneur, notre obéissance, notre confiance à Dieu. Oui, ce n'est pas rien de s'engager à la suite du Christ. Mais surtout, positivement, c'est quelque chose. Quand il est question de renoncer au mensonge, c'est aussi pouvoir bâtir une vie de droiture, d'honnêteté, de fidélité. Renoncer à la colère, aux calomnies, c'est pouvoir bâtir des relations plus harmonieuses, plus confiantes, plus paisibles. Renoncer à l'égoïsme, à une vie centrée sur soi, c'est découvrir la richesse d'une vie mieux reliée, plus ouverte. S'engager avec Jésus, c'est quelque chose vraiment. Ça vaut la peine, ça mérite qu'on le veuille vraiment. Jacques et Jean ont un côté répréhensible. Ils cherchent une position personnelle dans le royaume de Dieu, une promotion, et pas n'importe laquelle. Mais il faut quand même leur reconnaître un côté positif. Ils en veulent pour leur vie avec Jésus. Ils ont fait ce choix de le suivre, oui, mais ils en veulent. Ils veulent que ce choix leur apporte quelque chose, leur apporte beaucoup. Alors ils auront besoin d'être profondément réorientés. Mais reconnaissons-leur le mérite d'en vouloir avec Jésus. Et ça nous pose la question, ce temps de rentrée aussi, est-ce que la réussite de notre vie chrétienne fait partie de nos objectifs ? Est-ce que la réussite de notre vie chrétienne fait partie de nos objectifs ? Quand j'étais jeune chrétien, un des livres que nous lisions tous, on nous le recommandait, s'intitulait « Si tu veux aller loin ».« Si tu veux aller loin ». C'est un ouvrage de Ralph Challis. J'espère que chacun, nous avons ce désir d'aller loin avec le Seigneur. Aller loin avec le Seigneur. D'aller aussi loin qu'il veut nous conduire, lui. Et j'espère qu'au seuil de cette nouvelle année, nous sommes habités par ce même désir. Aller loin, aller plus loin avec le Seigneur. Faire un pas, des pas, pour avancer sur son chemin. Cette ambition vraiment d'en vouloir pour notre vie avec le Seigneur. Mais il s'agit précisément d'avancer sur le chemin de Jésus. Jacques et Jean voient ce chemin comme la voie royale vers la gloire. Jésus leur dit avec beaucoup de tact et de grâce, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Mon chemin est bien différent de ce que vous imaginez. » Et il reprend une nouvelle fois le langage que ses disciples avaient déjà zappé trois fois. Il leur parle de la coupe qu'il devra boire, du baptême dont il devra être baptisé. La coupe que je dois boire, dit Jésus, c'est une façon de parler du sort qui lui est réservé et qu'il acceptera, qu'il assumera jusqu'au bout, comme quand on boit une coupe jusqu'à la lie. Le baptême dont il devra être baptisé, l'image autour de cette idée du baptême ici, c'est l'image de l'immersion qui est évoquée. Plusieurs textes de la Bible parlent des afflictions, par exemple, qu'endure quelqu'un en employant l'image des grandes eaux qui submergent. « Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi », dit le psaume 43. Et c'est ainsi que Jésus parle de sa mort. Il sera emporté dans les abîmes du jugement de Dieu, qu'il subira pour nous, à notre place, emporté comme dans un tourbillon. Toutes les vagues de la condamnation que méritent nos fautes passeront sur lui. Comme le dit le prophète Ésaïe, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est cela le chemin de Jésus. Une coupe à boire, un baptême à endurer. Non pas l'autoroute vers la gloire, mais une coupe à boire jusqu'au bout. Un baptême abyssal à endurer. Mais dans une perspective résolument tournée vers le bienfait qui rejaillira pour d'autres. Le Fils de l'homme est venu, dit Jésus, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Et Jésus, du coup, inverse totalement les perspectives et les valeurs de ses disciples. Être grand, ce ne sera pas dominer. Mais ce sera se mettre au service des autres. La gloire, ce n'est pas la promotion personnelle au détriment des autres, mais c'est le service qui peut aller jusqu'à l'abaissement pour le bienfait des autres. Jésus a incarné cela totalement. Et si l'on veut suivre le Seigneur, ses valeurs doivent nous habiter profondément, intimement. Cela doit colorer, remodeler nos aspirations et nos ambitions. Voilà pour l'enseignement, la ligne générale de ce texte. Que tirer de tout cela pour nous, pour notre vie, nos aspirations au seuil de nouvelle année? Le premier enseignement ou le premier rappel que je tire de ce texte est qu'il y en a du chemin à faire pour vivre et pour penser au diapason avec Jésus. Il y en a du chemin à faire pour vivre et pour penser au diapason avec Jésus. L'écart entre les fils de Zébédée et Jésus est juste immense, quand on le mesure. L'écart est immense. Et cela dit, tout le chemin, tout le changement, tout le remodelage intérieur dont nous avons tous besoin. Car ce n'est pas juste les fils de Zébédée, hein, c'est le miroir de ce que nous sommes. Nous sommes faits de la même pâte qu'eux. Et les voir en face de ce que Jésus est, de voir la distance, le chemin à parcourir, nous rappelle que le chantier est immense dans notre vie aussi. Il y a tellement de domaines où nous avons besoin encore, où nous avons besoin toujours d'être transformés. Nous n'en sommes pas toujours conscients. C'est étonnant de voir comme Jacques et Jean étaient très à l'aise dans leur basket en adressant leurs demandes à Jésus. Aucun état d'âme. Ils avaient endossé la manière de penser de leur temps. Un Messie glorieux, un Messie victorieux, qui s'affirme et qui triomphe. Et du coup, les valeurs qui priment sont aussi les valeurs d'affirmation. Un disciple du Messie triomphant peut avoir pour ambition de faire partie de l'élite, d'avoir une place au-dessus des autres, c'est tout, c'est comme ça. Les valeurs qui étaient celles de leur temps, de leur conception du Messie. Mais Jésus renverse tout cela par son abaissement et par le don de lui-même. Et cela change totalement les valeurs pour ceux qui veulent être disciples de Jésus. dès qu'il regarde à lui, plutôt que de regarder à ce qui se fait, à ce qui se dit, à ce qui se pense autour d'eux. Je crois que nous avons à assumer ce contraste entre les valeurs de ce qui se dit, se pense autour de nous, et celles qui sont tirées vraiment de ce que Jésus nous a montré. Aujourd'hui, le contraste entre les valeurs de Jésus et celles de notre société est encore plus grand. Nous avons l'un des mots-clés aujourd'hui, c'est le mot de consommation. Dès qu'on a un peu d'aisance, on est happé dans un cycle où il faut sans cesse acquérir de nouveaux objets, qu'ils soient utiles ou pas, où chacun protège plus ou moins son train de vie, ses loisirs. Quelle place pour le don ? Quelle place pour l'oubli de soi ? Quelle place pour le temps, pour l'autre ? Pour la solidarité qui coûte ? Pour l'esprit de sacrifice ? Dans un système où tout ce qui compte, c'est consommer, en avoir encore et encore. Et protéger tout son confort. Nous sommes bien pris dans ce genre de cycle, nous aussi, comme les disciples étaient bien pris dans les conceptions de leur temps sur le Messie glorieux. Nous n'avons pas les moyens de venir en aide à des gens dans le besoin à cause du dernier objet à obtenir et que la pub a déclaré indispensable. Eh oui, nous n'avons pas le temps pour d'autres à cause du dernier feuilleton de télé qu'il faut pas louper. C'est constamment comme cela. Et l'exemple des disciples aussi face aux valeurs de Jésus nous rappelle que l'exemple et les valeurs de Jésus, s'ils sont vivants en nous, viennent se heurter à ce qui se fait autour de nous et qui nous marque si facilement. L'apôtre Paul nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez constamment transformés par le renouvellement de votre intelligence pour le discernement de ce qui est bon, de ce qui est agréable à Dieu, de ce qui est parfait. » Nous avons besoin d'être transformés. C'est une vraie contre-culture. Il y en a du travail à faire et à refaire. Parce qu'en face, on ne s'arrête pas. On propose sans cesse, on matraque, on impose des modèles. Et je dirais que c'est une belle ambition pour nous que de souhaiter ce renouvellement permanent de notre manière de voir les choses, de notre manière de voir nos priorités à la lumière des valeurs de Jésus. Et cela vaut dans bien des domaines, dans tous les domaines. Où sera notre référence ? C'est un premier point. Un deuxième axe, me semble-t-il, concerne le rapport entre soi-même et les autres. Jacques et Jean viennent à Jésus en demandant de lui un chèque en blanc pour eux-mêmes. Nous ne pouvons pas les blâmer lorsque nos propres prières ressemblent aussi parfois à une liste de commissions que Jésus devrait faire pour nous et nous livrer gratis. Jésus entend cette requête. Jésus répond à ses disciples en évoquant comme contre-exemple son orientation à lui, qui est juste l'inverse. Son objectif, c'est le bien et le salut des autres. C'est de leur apporter ce qu'ils n'ont pas. C'est de se mettre au service de leur joie, et nous l'avons dit, nous l'avons chanté, et de se mettre au service de leur bonheur, et de le faire avec joie, même si cela coûte, parce qu'on ne perd pas de vue le but. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la libération et le salut d'une multitude. Le mot-clé est ici le mot « servir ». Il s'agit pour Jésus d'une attitude choisie. L'attitude choisie, ce n'est pas un service imposé, c'est une attitude que l'on choisit. Le Fils de l'homme est venu pour servir. Et la grande beauté de ce mot, c'est son orientation. Son orientation, parce que le mot de service, c'est un mot qui débouche sur les autres. C'est un mot qui valorise les autres. Il dessine une ouverture. Il dessine une générosité. Celui qui sert dans le sens où Jésus l'entend est quelqu'un dont l'orientation profonde est cette ouverture, cette générosité pour l'autre. C'est toute la différence entre celui qui sert et celui qui se sert ou qui veut être servi. Le terme est noble, ce terme de service, c'est un terme noble. Pensez à ce que l'on exprime lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a été un grand serviteur de l'État. L'expression qu'on entend parfois, un grand serviteur de l'État. On ne parle pas simplement, quand on dit cela, de quelqu'un qui a réussi à avoir telle performance dans tel critère particulier. On évoque aussi une attitude, une orientation, la façon dont cette personne a fait du bien commun un objectif, une motivation. La grande beauté donc de ce mot de service, c'est son orientation, son ouverture vers les autres. Un des axes décisifs dans notre vie est le rapport entre moi et les autres. Si vous voulez, c'est comme une règle avec deux pôles. D'un côté, le pôle moi, de l'autre côté, le pôle les autres. Et nous sommes régulièrement amenés à positionner vraiment le curseur. Où sommes-nous entre moi et les autres ? Positionner ce curseur. Un peu plus de moi, un peu plus des autres. Le choix n'est pas en général entre tout pour moi ou tout pour les autres. Le choix est constamment dans le dosage. Et nous avons constamment à travailler sur la position de ce curseur entre moi et les autres. Et il est bon de nous évaluer de temps en temps avec cette pensée-là, avec deux questions. Premièrement, où en est le curseur de ma vie, honnêtement, entre moi et les autres ? Où est-il ? Est-ce que les autres, est-ce que le service des autres, est-ce que tout cela, ça a une place ? Et quand on dit « les autres ont une place », ça ne veut pas dire simplement « est-ce que je fais de l'humanitaire ou pas ?» Mais par exemple, à mon travail, est-ce que je suis quelqu'un qui est collaboratif ? Je suis prêt à parfois penser à ce que mes collègues ont aussi comme question, à arrêter mon travail pour peut-être un peu les aider. Est-ce que j'ai cet esprit collaboratif ? Ou est-ce que je ne suis quelqu'un qui ne voit que mes propres objectifs ? Ça, c'est une question entre moi et les autres, hein, très concrètement dans notre manière d'être tous les jours. Est-ce que dans mes relations, j'attends toujours l'initiative des autres, ou est-ce que je prends des initiatives, moi, vers les autres ? C'est aussi une question entre moi et les autres. Et dans mon couple, dans ma famille, quelle est la part entre ce que j'attends et ce que je donne ? Ça aussi, c'est cette même question. Où se trouve le curseur entre moi et les autres ? C'est une bonne question à nous poser régulièrement. Où en est le curseur de ma vie entre moi et les autres, dans les différentes sphères de ma vie, de mon activité ? Mais une deuxième question me semble importante. Où est-ce que je trouve ma joie ? Où est-ce que je trouve ma joie ? Est-ce que j'ai de la joie lorsque le curseur se déplace un peu plus vers les autres ? Ou est-ce que c'est surtout quand le curseur se déplace vers moi ? Là, je suis très content. Alors bien sûr, il est légitime d'avoir de la joie pour ce qui vient, nous fait du bien. Il y a du bonheur à recevoir, à se faire du bien. Mais la question à nous poser est plus globale. Globalement, honnêtement, où est ma joie ? Est-ce que ma joie est du côté des autres ? Est-ce qu'elle est plus du côté simplement de moi ? Lorsque je peux choisir librement, qu'est-ce qui l'emporte ? Dans quelle direction est-ce que je mets du cœur ? Dans quelle direction est-ce que je sais m'investir ? Voilà des questions très simples autour de ce rapport moi et les autres, qui apparaît très clairement comme l'un des enjeux de notre texte. Et Jésus nous invite à valoriser concrètement et positivement les mouvements du curseur qui vont du côté des autres. Et cela peut faire partie de nos ambitions pour cette année, que de vouloir et de demander à Dieu que ce pôle d'ouverture puisse se développer en nous à la suite de Jésus. Que Dieu nous montre concrètement comment nous pouvons le vivre. pour que nous ne soyons pas juste ouverts aux autres dans notre tête, parce que, par définition, parce que nous soyons chrétiens, nous soyons automatiquement ouverts aux autres, mais en le vivant concrètement dans nos actes, dans nos choix, dans nos relations, comme Jésus l'a vécu dans son ministère et à l'égard de son Père. Jésus nous rappelle, bien sûr, par son exemple, que tout cela, nous sommes appelés à le vivre parce que, justement, nous voulons avoir une vie qui est ouverte sur Dieu, ouverte à ce que lui, Dieu nous demande en toutes choses, comme Jésus a été lui-même ouvert à la volonté de son Père. Mais Jésus nous laisse l'exemple d'une ouverture à Dieu qui ouvre aussi nos relations aux autres. Quelles seront nos ambitions dans ce domaine? C'est une question que peut-être nous pouvons recevoir ce matin de notre texte. Je termine par un mot qui concerne notre actualité. Depuis quelques semaines, enfin, on entend un discours d'ouverture à propos des populations exilées qui fuient leur pays, qui fuient la guerre. Enfin, des voix s'élèvent au plus haut niveau pour parler d'un devoir d'accueil, de solidarité et d'humanité. Il a fallu le courage de Mme Merkel, qui a su tenir ce langage contre une partie extrême de son opinion publique, et qui l'a fait de manière forte et digne et cohérente, et sans attendre l'émotion d'une photo pour tout d'un coup se réveiller. Il est bon d'entendre ce langage qui va dans le sens de ce que Jésus dit, l'ouverture aux autres. Mais la palme du propos calamiteux est revenue à quelqu'un qui se revendique du côté chrétien. Le Hongrois Viktor Orban a déclaré que l'accueil des réfugiés constituerait une menace à l'identité chrétienne de l'Europe. Accueillir une menace à l'identité chrétienne. On est assis. On est assis. Accueillir une menace à l'identité chrétienne. Parler ainsi, c'est faire de l'identité chrétienne un bunker, un égoïsme, un repli frileux, une peur, un rejet de l'autre. La contradiction totale des valeurs de l'Évangile. L'identité chrétienne n'est pas de ce côté. Elle est, pour autant que c'est possible, du côté du souci de l'autre, de l'ouverture à l'autre. On doit garder cela. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Alors nous ne savons pas sur quoi déboucheront ces flux migratoires qui font partie des réalités du monde globalisé d'aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous savons que nous devons et que nous devrons adopter une attitude de disciple de Jésus, y compris sur ce point. Il y aura des tensions, il y aura des radicalisations. Il nous faudra tenir notre cap, fidèlement. Il y aura des besoins, si les choses se prolongent. Il y aura des efforts. Des impôts en plus, peut-être. Il y aura des accueils nécessaires. Nous devons nous préparer devant Dieu à les affronter et à chercher à prendre notre part, honnêtement, et à demander honnêtement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que nous fassions? Et nous ne devrons pas simplement considérer que c'est la responsabilité des autres ou des États, ou de l'Allemagne qui a plus de moyens que la France. Nous devons nous préparer face à cette question en tant que disciples de Jésus. Je n'ai pas de réponse à vous donner, mais je crois qu'il est bon que nous nous armions de cette pensée aujourd'hui, face à cette réalité qui approche, qui se dessine, car nous sommes appelés à être des chrétiens 24 sur 7, c'est-à-dire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est quand même cela à quoi Jésus nous appelle, et il est important que nous puissions chercher dans tous les domaines de notre vie ce que peut impliquer être un disciple de Jésus et ce que peut vouloir dire ce beau mot de servir qui s'ouvre sur les autres plutôt que de se replier sur soi comme un bunker. Alors nous allons continuer à réfléchir à tout cela, car nous envisageons de méditer pour les temps qui viennent le serment sur la montagne. Donc je pense qu'il y aura des choses de Jésus qui vont quand même nous faire réfléchir. La vie concrète à laquelle Jésus nous convie. Et voilà notre parcours sur l'ambition en ce dimanche de rentrée. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, quelles ambitions nous habitent en ce temps de rentrée? Quelles attentes, quelles aspirations animent nos cœurs? Amen.